Bonjour.
Bonjour.
Je vais vous laisser vous présenter.
Nadège Avet, sénatrice du Finistère.
Super.
Oui, bonjour Nadège. Un petit coucou à la Bretagne, où le colloque de l'EMCC s'est déroulé cette année, puisque nous étions à Rennes.
Pas dans le Finistère.
Pas dans le Finistère. On
alors, les vrais Finistériens vous diront que Rennes, c'est plus tout à fait le Finistère, mais étant rennaise d'origine, je ne dirai rien.
Ah, ça va alors.
Oui. Bon, ça va, il n'y a pas de faux pas. Donc, bonjour, bonjour Nadège. Donc, aujourd'hui, Salon des maires, donc, en tant qu'élu national, pourquoi êtes-vous un salon local?
Alors, j'étais élue locale auparavant et je le suis toujours. Le Salon des maires, c'est un moment important, en fait, pour tous les élus, à la fois pour concrétiser des projets, mais également avoir des nouvelles idées. Et puis, c'est surtout un lieu de rencontre où on participe à des conférences et autres, et c'est très intéressant. Moi, ce matin, en fait, j'intervenais sur une conférence sur la commande publique.
D'accord. Alors, la commande publique, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que, dit comme ça, bon, on a vaguement une idée, mais en quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'on pourrait
alors,
dire?
Alors, en fait, c'est le fait que les collectivités, quand elles doivent construire une école ou un bâtiment, elles ont des règles à respecter et donc elles doivent établir un appel d'offres pour pouvoir effectivement construire leur bâtiment ou acheter une flotte de voitures. Donc c'est ce qu'on appelle la commande publique et on a écrit avec ma collègue députée Sophie Beauduin-Hubert un rapport l'année dernière pour verdir, entre guillemets, un peu la commande publique et puis voir quels sont les leviers sur la transition écologique. Pardon.
Et alors, bah, j'allais rebondir justement, quels sont les leviers? Alors j'imagine qu'il y en a de nombreux, mais est-ce que vous pourriez nous parler voilà, de quelques-uns de ces leviers
Le levier, c'est d'abord de se connaître. On s'aperçoit que quand il y a un appel d'offres, en fait, c'est très souvent des plus grosses entreprises qui y répondent. Et les petites entreprises du territoire, alors je parle de petites entreprises TPE, PME, ne s'autorisent pas à y répondre.
Ou ne peuvent pas, parce que voilà. Alors, nous, alors,
en tant que coach,
nous sommes voilà, coach professionnel et donc très petite entreprise. Et nous avons, dans le cadre de notre entrepreneuriat, découvert, quand on a commencé, que on ne pouvait pas répondre quand on est petite entreprise et que bien souvent il faut 3 ans d'existence, etc. Ou alors s'adosser à une plus grosse entreprise.
Tout à fait. En fait, il y a également tout ce qui est la méconnaissance, la peur, à la fois chez les élus locaux, mais également dans les plus petites entreprises, parce que c'est beaucoup de paperasserie, c'est un cadre juridique très important. Et l'une des premières choses qu'on recommandait, c'était de pouvoir être formé à qu'est-ce que la commande publique, comment on rédige pour les élus un bon appel d'offres, comment on y répond en fait avec les entreprises. Et puis c'est tout simplement d'organiser des forums pour que les petites entreprises ou les entreprises se parlent avec les élus locaux pour que chacun voit quelles sont les contraintes de l'autre et puis puisse trouver des pistes pour pouvoir avancer.
Oui, parce que ce marché, enfin ce domaine des appels d'offres, c'est compliqué quand on n'est pas juriste. Moi personnellement, je suis aujourd'hui coach professionnel, mais dans une vie antérieure, j'étais directrice juridique.
Ah donc vous avez, c'est facile pour vous alors? Ah,
c'est pas facile. Même quand on est du métier, c'est pas forcément facile parce que j'étais juriste en droit privé.
Ouais, c'est très différent.
Mais, voilà, c'est très différent. Bon, mais il y a quand même, on a une certaine habitude de lecture des textes, donc ça nous aide. Mais parfois, je me dis pour des gens qui arrivent, qui n'y connaissent rien. C'est juste incompréhensible et ça paraît le parcours du combattant. Je sais pas, Cécile.
Oui.
Et est-ce qu'il y a des. Justement, comme vous êtes au Sénat, est-ce qu'il n'y aurait pas une certaine. Enfin, comment dire, des réflexions qui ont lieu en ce moment pour dire comment simplifier cette commande publique et dire quand on est une petite entreprise ou un indépendant, etc., comment je peux faire avoir une, je sais pas, une démarche simplifiée, quelque chose qui soit plus accessible, en ligne, facile quoi.
Alors il y a la difficulté, c'est qu'on a notre droit français plus le droit européen, hein, donc il faut qu'on reste dans ce cadre. Il y a des choses autour du sourcing, c'est-à-dire en fait pouvoir connaître les entreprises du territoire pour une collectivité de savoir effectivement ce sur quoi elles agissent. L'une des recommandations du rapport, en fait, c'était que la collectivité puisse effectivement établir un plan d'achat. Se dire, bah tiens, sur l'année qui va venir, je vais acheter telle ou telle chose. Comme on fait un document d'orientation budgétaire, en fait, là, en fait, on établirait un plan d'achat pour toute une année. et qui serait diffusé, et on réunirait à un instant T toutes les entreprises susceptibles d'être intéressées par les achats qui vont arriver, et ensuite on se parle et on se fait connaître. Parce que souvent, l'entreprise, en fait, elle voit que le marché est attribué sans avoir vraiment connaissance que le marché, il a été déposé, ou bien c'était pas dans le bon tempo, voilà. Mais au moins de pouvoir donner de la lisibilité. Et l'autre partie, c'est également de former les élus, alors je pense souvent aux petites collectivités, mais moi j'ai été responsable dans une commission d'appel d'offres à un instant T en 2008, j'avais aucune expérience de l'appel d'offres. Et en fait, je n'étais pas formée. Et là, vous vous dites, ah, bah, c'est super, il va y avoir la DGCCRF.
Et même de l'évaluation, du coup, oui, de la notation.
Ouais, en fait, vous pensez que vous allez avoir plein de monde pour vous aider, mais au final, ils ne viennent jamais. Donc, vous êtes trois et il faut décider en se disant, bon, bah, pourvu qu'on ne fasse pas d'erreur. Ouais. Donc, il y a aussi cette partie-là de la formation, à la fois pour le secrétaire de mairie qui va devoir rédiger l'appel d'offres, si ça se trouve, il en fait un tous les deux ans. Et puis, à la fois au niveau des élus.
Et je rebondis sur autre chose, puisque là, j'ai l'impression que quand vous parlez des appels d'offres, ça fait appel à votre casquette d'ancienne élue locale. Donc, quelles étaient vos fonctions locales et comment vous êtes passé d'élu local à élu national au Sénat? Quel a été votre parcours, en quelque sorte?
On va dire qu'il est un peu atypique. J'étais adjointe aux affaires scolaires en 2008 et en 2014. En 2014, je deviens vice-présidente en fait, de la communauté de communes en charge de l'environnement. Et en 2017, le fruit de hasard et de rencontres, en fait, je deviens suppléante d'un député qui est élu et j'intègre en fait le comité départemental de En Marche, donc La République En Marche, Renaissance maintenant, en 2017. Et en 2020, j'ai un sénateur qui avait donc effectivement fait un premier mandat, qui cherchait à constituer sa liste. Et en fait, un certain nombre de personnes lui ont dit qu'il fallait qu'il vienne me rencontrer. Jamais j'ai pensé être sénatrice, hein, honnêtement. On se rencontre et là, j'ai envie de dire, c'est la belle rencontre. En fait, on a deux visions totalement identiques de la politique et ce que doit être un sénateur. C'est-à-dire que pour nous, en fait, on est là effectivement pour écrire la loi. Mais on est surtout là pour le territoire et pour les collectivités territoriales qu'on représente. Mmh. Et chaque jour, en fait, qui m'anime, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aider le Finistère. Voilà.
Et alors, pour nos auditeurs qui ne savent peut-être pas hein, quel est exactement ou en quoi consiste le métier de sénateur, moi, j'ai envie de vous poser la question. C'est quoi un quotidien, justement, quand on est sénatrice?
Alors, on passe beaucoup de temps ou dans sa voiture ou dans les transports. Non, en fait, ça se découpe. Le quotidien se découpe de deux façons. Il y a le quotidien en circonscription. Donc, notre circonscription, c'est le département. Donc, avec la totalité des communes. Et il y a le quotidien à Paris. Donc, évidemment, quand on est à Paris, c'est à la fois le travail en commission, c'est à la fois les différents rendez-vous, les différentes auditions et les temps, en fait, dans l'hémicycle. Je pense aux questions au gouvernement, qui sont le passage obligé le mercredi après-midi, les temps où on est sur des textes dans l'hémicycle. Et si je peux faire passer un message, c'est que parfois on a l'impression qu'il n'y a pas grand monde dans l'hémicycle, mais c'est qu'en même temps parfois on est en audition ou en commission, donc on ne peut pas être à deux endroits à la fois. Et par contre, en circonscription, donc dans notre département, là on est plutôt sur un travail de contact avec les élus. Moi je passe des demi-journées en fait dans des communes où effectivement je vais à leur rencontre, je leur explique ce que je fais au Sénat, ils me présentent leurs projets, on parle de leurs problématiques, tout ça pour pouvoir avoir des exemples très précis et puis pouvoir faire remonter en fait dans les différents ministères.
Donc il y a vraiment une alternance entre travail au niveau national et puis travail au niveau local.
C'est ça, le lundi et le vendredi c'est dans le Finistère et le mardi, mercredi, jeudi c'est à Paris.
Alors vous êtes tout dans le Finistère parce que depuis tout à l'heure vous nous en parlez, c'est bon là, on est transporté, vous êtes tout dans le Finistère.
Alors j'habite une petite commune qui s'appelle Saint-Pabu, donc tout au nord du Finistère, dans le pays des Abers.
D'accord.
Donc vous irez voir, c'est... Il y a des très jolies plages de sable fin.
Eh oui, de sable fin, ouais, avec la mer qui est verte par là-bas aussi. Hein.
C'est ça.
Ouais.
J'aurais encore une petite question. Donc, nous sommes coach professionnel, nous sommes la radio OMCC, donc Fédération des métiers de l'accompagnement. Et j'aimerais avoir votre représentation de ce que sont les métiers du coaching, du mentorat et de la supervision pour vous. Et je rajouterais une petite question subsidiaire. C'est est-ce qu'il y a vous auriez une pratique à partager dans ce domaine-là, au Sénat ou en collectivité?
On précise que c'est une question qui vient de nous arriver en direct d'un de nos auditeurs, Antoine, qu'on salue au passage.
Voilà, oui. Alors, la représentation que j'ai du coaching ou du mentorat, c'est de permettre à des personnes, en fait, de s'émanciper, de croire en elles et de leur ouvrir certaines portes. Je m'explique. Alors, surtout en plus quand on est une femme, on a tendance à se mettre plein de barrières toute seule. Et le fait d'être coaché, ça permet d'avoir une vision différente et de renforcer en fait sa confiance en soi et de lever des barrières. Même chose pour le mentorat. En fait, pour moi, le mentorat, c'est une ouverture d'esprit sur différentes choses sur lesquelles on n'aurait pas pensé. Moi, je passe beaucoup de temps avec des jeunes stagiaires, mais ça devient de ma formation professionnelle et de ce que je faisais avant. Et c'est tout simplement pouvoir les accompagner, les guider dans la direction qu'ils auront choisie, mais pour pouvoir, en ayant toutes les cartes en main. Voilà comment je vois les choses. Et au niveau du Sénat, ma contribution à moi, en fait, c'est d'ouvrir les portes. J'accueille des jeunes avec l'association Viens voir mon taf, en fait, pour leur permettre de voir qu'est-ce que c'est qu'une une institution, comment on construit la loi et autres. Et voilà, moi, je m'estime être juste la porte d'entrée de cette belle institution et qu'il faut faire connaître. Et puis d'accompagner les jeunes et les moins jeunes, parce que la reconversion professionnelle, ça peut être à tous les niveaux.
Tout à fait. Et on vous souhaite d'ouvrir encore beaucoup de portes pour toutes les femmes aussi qui vous écoutent et qui, effectivement, peut-être s'auto-censurent. C'est ce que j'entendais dans votre discours.
C'est ça. En fait, on a beau être sénatrice, on n'a jamais confiance en soi et on se demande... J'ai toujours la même question, en fait, par rapport à 2020 ou à 2008, quand j'ai été élue. Suis-je vraiment légitime?
Et suis-je vraiment à ma place?
C'est voilà. Ça. Et je pense que je me la poserai toujours. Je peux aller faire du coaching, je pense.
En tout cas, merci pour votre humilité et pour nous avoir transmis, nous avoir partagé.
Et pour plaisanter auprès des auditeurs, j'ai le soleil en pleine figure, donc je peux dire que vos animatrices sont rayonnantes.
Oh, merci beaucoup. Merci. C'était Nadège Avey, sénatrice du Finistère en direct de la radio EMCC. Merci.
Et on se retrouve dans un instant.
Radio EMCC France. Il est 11h. Bonne journée. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me home. Spend all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing game. Oh, oh, all I know, loving you is a losing game. Do you? From my heart.